Les quatre évangiles en un seul, du chanoine Weber, si tu savais le nom de Dieu, aux éditions des traditions monastiques, à la page 124, Saint Matthieu chapitre 9, versets 18 à 34, Saint Marc chapitre 5, versets 22 à 43, et Saint Luc chapitre 8, versets 41 à 56. Vous remarquez que ce sont les synoptiques et qu'ici, Saint Jean n'apparaît pas. Jésus parlait encore lorsqu'un chef de la synagogue nommé Jaïr vint se jeter à ses pieds et lui adressa la plus instante prière. « Ma fille se meurt, disait-il. Peut-être même est-elle déjà morte. Mais venez, étendez votre main sur elle et elle sera guérie. Ou même si elle est morte, elle vivra. » Je vous préviens, le chanoine Weber fait une traduction catéchétique, donc qui n'est pas une traduction parfaitement fidèle. Il y a de l'interprétation dans la traduction du chanoine Weber. Mais nous sommes ici dans un catéchisme. Donc ces interprétations du chanoine Weber, bénies par la censure ecclésiastique, sont catéchétiques. Elles vont dans le sens de la foi, dans sa plénitude. C'est la raison pour laquelle je ne corrigerai pas toujours les surinterprétations de la traduction. Nous avons découvert 200 évangiles dans les placards de la paroisse, donc je vous donnerai la traduction, une traduction proche de la traduction de la Bible de Jérusalem sur l'hébreu, sur le grec. Ici donc, le chef de la synagogue, donc c'est un juif, ce n'est pas un païen, et il souhaite que le Messie sauve sa fille. Qu'elle soit encore malade ou si elle est morte, voyez. Jésus se leva et le suivit, accompagné de ses disciples. Une foule immense se pressait sur ses pas, le serrant de tous côtés. Cela est important dans notre foi, de savoir que le Christ, à certains moments, fait de nombreux miracles. Il suffit de le toucher. Ici, c'est une foule qui le presse. Il n'y a là pas particulièrement de miracles, mais il va y en avoir un de particulier, et puis il va ressusciter la fille de Jaïr. Le miracle n'est pas indispensable pour croire, mais c'est un élément quand même de la foi, car il y en a un qui est incontournable, c'est la résurrection d'un mort. La résurrection du Christ est le miracle fondamental qui oblige à croire ce que Dieu révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Vous pouvez mettre en cause des miracles qui ne sont pas dans la Sainte Écriture et qui n'ont pas l'inhérence de la Sainte Écriture, l'absence d'erreur de la Sainte Écriture. Vous pouvez ne pas croire qu'il y a eu des miracles à Lourdes, vous ne pouvez ne pas croire qu'il y a eu des miracles à rue du Bac, mais vous ne devez pas d'ailleurs vous y opposer publiquement parce que l'Église s'est prononcée. Mais pour ce qui est des miracles de l'Évangile, ils sont tous à croire. Et il y en a un que les exégètes modernes n'arrivent pas à contrer, c'est quand même la résurrection du Christ. Ils vont relativiser beaucoup de choses, mais la résurrection du Christ, ils n'osent pas. Voilà. Or, dans cette foule se trouvait une femme affligée depuis 12 années d'un flux de sang. Elle avait beaucoup souffert des traitements d'un grand nombre de médecins. Ça, c'est un détail de Saint Luc, qui était médecin, et qui, par humilité, dit que ses confrères ne sont pas extraordinaires. Mais ça touche tout son ordre, hein, et donc lui également. Mais c'est une remarque de médecin. C'est amusant de voir que Saint Luc écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais a aussi sa personnalité et donne des détails qui sont propres à sa personnalité. Et avait ainsi dépensé toute sa fortune, comme quoi, vous voyez, rien de nouveau, sans obtenir ni guérison ni soulagement. Sa maladie, au contraire, n'avait fait qu'empirer. Ayant appris que Jésus passait, elle s'était mêlée à la foule et marchait derrière lui. Et elle se disait, « Si je puis seulement toucher la frange de son vêtement, je serai sauvée. » Elle le toucha, et aussitôt le sang s'arrêta, la source en fut desséchée, et elle sentit en elle-même qu'elle était guérie de son infirmité. On lit en note. Cette pauvre femme était païenne selon la tradition orale de l'Église et originaire de Césarée de Philippe. Confuse de son infidélité autant que de son infirmité, elle se tenait dans une humble et touchante réserve. Mais quelle foi ! Parler au Seigneur, elle n'oserait. Mais, perdue dans la foule, elle touchera seulement le bord de sa robe, persuadée que Jésus, si bon, si puissant, et à qui nulle misère n'est cachée, aura pitié d'elle et la guérira. Plus tard, à Césarée, elle élèvera à Jésus une magnifique statue de bronze qui rappellera le miracle. Vous allez me dire, mais vous n'avez pas entendu parler de ça. C'est une tradition orale. Oui. Bien sûr, l'envahisseur romain, ensuite, aura sans doute détruit cette image. Mais, voyez-vous, c'est une tradition orale. Et le chanoine Weber est très fidèle à rapporter toutes ces traditions. Au même instant, Jésus, connaissant qu'une vertu était sortie de lui, se retourna vers la foule. « Qui a touché mes vêtements » dit-il. « Qui m'a touché ?» C'est amusant. Vous les avez, les exégètes modernes, qui vous disent « Il ne savait pas qu'il l'avait touché. » C'est ridiculiser le Christ. Hein. Et vous voyez que le Christ est plein d'humour aussi. Hein. D'ailleurs, les apôtres le prennent au premier degré. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent « Maître, vous le voyez bien, la foule vous presse et vous accable, et vous dites « Qui m'a touché ?» Et comme quoi c'était un véritable ecclésiastique, donc qui déjà avait peut-être des faiblesses d'exégète moderne, vous voyez. Non. Quelqu'un m'a touché, reprit Jésus, car j'ai senti qu'une vertu est sortie de moi. Et alors il regardait tout autour de lui, puis fixait les yeux sur cette femme. Ne pouvant plus se dérober et toute saisie de ce qui venait de se produire en elle, elle se jette confuse et tremblante aux pieds de Jésus et déclare devant tout le monde pourquoi elle l'a touché et comment, à l'instant même, elle a été guérie. Aie confiance, ma fille, lui dit Jésus. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie à jamais de ton infirmité. Vous voyez, le commentaire est très beau. Par cette question, Jésus voulait exciter l'attention de la foule qui l'environnait. Il voulait aussi nous montrer que nos contacts avec lui n'attirent ses grâces que dans la mesure de notre foi, de notre humilité, de nos désirs et de notre générosité. Que de contacts stériles. Ça, c'est la dureté de... comment dire, d'autrefois, n'est-ce pas ? La malade désespérée que les médecins n'ont fait qu'affaiblir davantage, c'est l'humanité païenne. Ça, c'est l'interprétation spirituelle. Elle va mourir si le vrai médecin ne paraît pas. Voyez. C'est les fausses religions. C'est Bouddha qui, est un sage par rapport à beaucoup de ses contemporains, mais qui... touché de la misère de son peuple, se dit qu'il vaut mieux ne pas exister. Oui. Et c'est une erreur. Oui. C'est ceux qui sont sensibles aux forces de la nature et qui vont diviniser le bison, le vent, voyez, parce que ils sont impressionnés par la force de la nature. Ce sont les hindous qui vont diviniser l'éléphant parce que l'éléphant leur permet des travaux, d'aides très nombreuses dans leur vie quotidienne. Mais voyez-vous, lorsqu'on a la vérité sur Dieu, on doit la confesser et la dire. Et même si vous avez des hindous... calme et pacifique, qui vont reconnaître Ganesh, dont la tête avait été coupée, la mère n'était pas contente, la déesse a demandé, et son père lui a dit, le premier animal que tu trouveras, tu lui mettras sa tête et il revivra, et ils sont trouvés face à face avec un éléphant, le pauvre éléphant, hop, la déesse lui a coupé la tête, l'a mis sur la tête de son fils, et qui s'est trouvé mieux. Enfin, avec une tête d'éléphant. Voilà. Ganesh. Depuis longtemps, Elle perdait ses vertus naturelles sous l'action des médecins trompeurs. Mais c'est aussi la religion païenne, gréco-romaine, hein, vous savez, le Panthéon. Vous avez donc le film en ce moment, comment dire, le film Ben-Hur, hein, qui est un remake, comme on dit en anglais, hein, un tournage à nouveau. Et un des héros a une véritable piété pour Mars. Et donc on ne doit pas totalement, voyez-vous, se moquer de ces païens qui avaient leur petite statuette, parce que, attention, de ne pas se moquer du coup de nous-mêmes, lorsqu'on a une petite image de la Vierge Marie. Et donc eux avaient confiance dans ces divinités, parce que c'était les seules qu'ils connaissaient. Mais en fait, ces divinités étaient inventées par les hommes pour faire la guerre, pour tromper leur épouse, hein, pour les histoires entre Jupiter et Junon. Et tout cela, eh bien, ça ne leur donnait pas la véritable lumière. Philosophes, dont certains prenaient le suicide, hein, pour ne pas perdre la face. César, prêtre des idoles, impuissant à guérir ses maux. Selon la loi mosaïque, elle était impure parce qu'elle avait un flux de sang et devait s'abstenir de sacrifier au vrai Dieu en plus. Voyez. C'est la raison pour laquelle vous avez, par exemple, des conducteurs de bus musulmans qui ne veulent pas s'asseoir derrière un conducteur de bus femme parce que si elle a ses règles, le siège du bus est impur. Et il contracte une impureté légale à s'asseoir là où s'est assise une femme. Et tout ça, ce sont des vieilles prescriptions, mais qui sont tombées, parce que toutes ces prescriptions indiquaient la faiblesse humaine, la maladie, mais la maladie de l'âme. Et le Christ, lui, en mourant, a écarté toutes ces prescriptions jusqu'aux prescriptions alimentaires, quand Saint Pierre, nous le verrons en lisant les Actes des Apôtres, va manger des animaux impurs. Voyez. Dans la vision de Jopé. Il venait de prononcer ces paroles quand on vint dire au chef de la synagogue, donc on passe d'une païenne à un chef de synagogue. C'est très beau, hein, parce que c'est vraiment le salut pour tout le monde. Votre fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître, hein, le rabbin. Hein. Jésus, ayant entendu cette parole, dit au Père, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Arrivé à la maison, il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Donc vous voyez, tout cela pour vous dire que Dieu peut avoir des préférences et nous n'avons pas à être jaloux. Les apôtres seront jaloux, ça c'est sûr. Mais voyez-vous, de la même manière que pour la transfiguration et pour l'agonie au jardin des Oliviers, il va prendre auprès de lui Pierre, Jacques et Jean. Ce sont des préférences de mission, ce ne sont pas des caprices. Voyez. Or, il y avait là une troupe bruyante et confuse de joueurs d'instruments et de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Voyez, les pleureuses, les instruments de deuil déjà. Pourquoi tout ce trouble et ces pleurs, dit-il. Ne vous affligez pas et retirez-vous. Cette jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Alors, voyez-vous, quand vous lisez les évangiles, en effet, pourquoi nous les lisons à chaque messe? C'est parce qu'ils sont intemporels. Ils s'adressent à ceux qui jouent maintenant pour le deuil, mais ils s'adressent aussi à nous. Il nous dit de ne pas être triste, il nous dit de ne pas pleurer intensément et désespérément. Parce qu'il y a la vie après la mort, parce qu'il y a la résurrection des corps aussi, à la fin des temps. Tout cela, vous voyez, c'est extraordinaire de voir à quel point c'est maîtrisé par la toute-puissance divine, toutes ces paroles. Parce qu'elles ont plusieurs sens. Vous voyez. Et il faut être un parfait écrivain pour imaginer de tels sens différents. Et il se riait de lui, sachant bien qu'elle était morte. Mais Jésus fit sortir tout le monde et garda seulement avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ses trois disciples. Puis il entra dans la chambre où la jeune fille était gisante. Commentaire. C'est pour les disciples, tout particulièrement semble-t-il, que Jésus a fait ce miracle, puisque seuls, avec les parents de la jeune fille, ils sont admis en être les témoins. Dans cette partie de l'évangile, une chose paraît frappante, c'est le soin que prend le Sauveur de développer en ses apôtres une foi de plus en plus parfaite en sa divinité, par des miracles de tout genre, si éclatants, et qui se succèdent à de si courts intervalles, c'est certain. La prenant par la main, il dit d'une voix forte « Talitha cum »« Kumi » ici, ce qui signifie en araméen « Jeune fille, lève-toi » commentaire du chanoine Weber, « Je te l'ordonne » mais là c'est « Talitha cumi » mais « Je te l'ordonne » c'est dans le fait que c'est un impératif. Et soudain la vie revint en elle et elle se leva et marcha. Et Jésus voulut qu'on lui servît à manger. Vous voyez ce miracle de création, de remettre l'âme dans le corps, mais aussi de détruire la maladie. Parce que, on va dire, oui, mais elle était malade, elle n'était pas morte. Oui, mais de là à se relever tout de suite, n'est-ce pas? Non, elle devait être alitée depuis longtemps et elle était à la mort. Donc le fait de se relever tout de suite et de manger est un deuxième miracle dans le miracle. Voyez. Le père et la mère de la jeune fille étaient au comble de la joie et de l'étonnement. C'était leur fille unique et elle n'avait que 12 ans. Voyez. C'était leur fille unique et elle n'avait que 12 ans. Il leur défendit expressément de raconter à personne ce qui s'était passé. Mais le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Jésus étant sorti, deux aveugles s'attachèrent à ses pas en criant « Fils de David, ayez pitié de nous ». L'intérêt de lire les évangiles, excusez-moi, hein, c'est de ma faute. Il a du mal à mourir. Lui. Jésus étant sorti, deux aveugles s'attachèrent à ses pas en criant « Fils de David ». Et là, remarque donc de catéchisme fondamental dans la lecture suivie d'un évangile, « Fils de David », c'est le Messie, c'est l'accomplissement des prophéties. Et ce sont des aveugles, des gens malades, des gens du peuple, des gens pauvres à cause de leur maladie. Tout le monde connaissait les prophéties. La Samaritaine, elle est hérétique d'un peuple mi-juif, mi-païen, et elle dit, on attend le Messie. Est-ce que ça ne serait pas vous? Tout le monde connaissait les prophéties. Il y avait une très grande connaissance de la foi. Quand vous posez des questions à des musulmans, ils connaissent bien leur catéchisme. Certains n'ont pas lu le Coran. La plupart n'ont pas lu le Coran. Mais tous vont diront, Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais il est un grand prophète, Marie est vierge, il va revenir à la fin des temps pour affronter le Dajjal, l'antéchrist, Jésus n'est pas mort sur la croix, il faut prier 5 fois par jour, enfin, il faut faire l'aumône, il faut faire le carême, il faut faire le ramadan, actuellement, vous voyez, les musulmans connaissent mieux leur religion de base que nous, hein, que ceux qui sont français de souche, comme on dit. Dans le même temps, ils ne connaissent pas assez le détail de leur religion. La vie de Mahomet, les hadiths, n'est-ce pas, et aussi des passages qui sont tout à fait étonnants après l'évangile. Le fait de pouvoir avoir plusieurs femmes, de pouvoir les répudier, c'est illogique. Le fait d'être dur avec ses ennemis, c'est contraire. Enfin, comment Dieu peut envoyer un prophète à un moment et 600 ans plus tard un autre qui dit pas tout, parfois le contraire, voyez. Donc c'est un véritable chemin pour des musulmans croyants en l'existence de Dieu, dans sa capacité de révéler sa nature, sa volonté, de se dire que finalement, ce n'est pas un engendrement ridicule physiologique, le Fils de Dieu, mais c'est un engendrement éternel de la pensée, de la parole, de la sagesse éternelle du Père. Et c'est pour ça que c'est totalement, bien sûr, spirituel, mais réel. Et que en Jésus se trouve le Fils coéternel du Père, dans l'amour coéternel du Père et du Fils, le Saint-Esprit. Et il est très touchant de voir que justement des musulmans attendent même d'entendre que Dieu est Père. Avant de passer le pas et de reconnaître que Dieu a, comment dire, est Fils, et amour de Père et de Fils, puisqu'on leur a dit que c'était de l'idolâtrie, de l'association, que c'était trois dieux, et donc ils ont une crainte révérentielle de perdre la foi dans Dieu, en Dieu créateur, et qui pardonne les péchés. Donc il faut faire bien attention lorsqu'on parle avec un musulman de ne pas le blesser inutilement par rapport à la foi en l'existence de Dieu. Mais ensuite, voyez-vous, révéler d'une manière plus de manière douce que Dieu est amour et que Dieu est Père, il faut, si vous voulez, un des moyens, c'est de parler de la Vierge Marie aussi, puisque c'est la mère vierge du prophète Jésus, et d'aller jusqu'à dire justement que s'il n'a pas de père humain, qui est son père? Et c'est Dieu, voyez. Mais c'est plus qu'un homme, c'est un homme et Dieu, dans la personne éternelle de la pensée divine, du Verbe, de l'expression de l'amour du Père. Oui. Fils de David, ayez pitié de nous. Jésus poursuivit son chemin jusqu'à sa demeure. Jésus fait fin de les ignorer, comme parfois avec nous. Alors les aveugles s'étant approchés, il leur demanda, « Croyez-vous que je puisse le faire ?» Voyez, moi, comme m'avait dit un élève de première, sur mes plaisanteries plus ou moins fines, il était dans les rangs dans une école hors contrat de 200 élèves, et il avait dit à voix haute, mais je n'avais pas entendu, mais c'est ceux qui étaient dans les rangs à côté l'avaient entendu, il a dit, c'est comme les parachutes. Et alors, moi, je n'avais pas entendu, ils avaient ri. Alors, je l'ai fait venir, on était 3-4 prêtres, et c'était le rassemblement du soir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Il était gêné, il dit, c'est comme les parachutes. J'ai dit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et encore plus gêné, il a dit, mais c'est, quand on n'a pas d'humour, il faut faire comme les parachutes, s'écraser. Oui. Mais voyez-vous, malgré cela, je persiste à faire des blagues à deux balles. Mais voyez que notre Seigneur est un certain humour éternel. De dire, croyez-vous que je puisse le faire? Oui, Seigneur, s'écrièrent-ils. Il toucha leurs yeux, disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Eux qui ne voulaient que un miracle physique et qui n'avaient peut-être pas un grand amour de Dieu, ça a suffi. Mais imaginez maintenant, si moi je cours après le centenaire de Fatima pour que la Vierge Marie obtienne de son divin fils que le soleil tourne autour de Paris, voyez, peut-être que je ne pèse pas assez dans la balance et qu'il faudrait d'autres personnes qui demandent à Dieu, avec foi, un miracle pour nous aider à croire. Voilà. Prenez garde que personne ne le sache, leur dit-il, avec menace. Donc on est au tout début. Et là, le Christ ne veut pas qu'on dise trop qu'il est le Messie. Mais vous avez vu qu'il leur a pas dit « Non, je ne suis pas le Messie », comme à la Samaritaine, au contraire. Et là, ils disent « Fils de David ». Les exégètes modernes qui vous disent « Oh, il n'était pas très conscient de qui il était, vous savez, c'était un homme en recherche ». Mais dès alors qu'à 12 ans, il dit « Il faut que je sois aux affaires de mon père ». Non ? Oui. Mais dès qu'ils furent sortis, ils publièrent partout ce qui venait de leur arriver. À peine s'était-il éloigné qu'on lui présenta un homme muet, possédé du démon. Il chassa le démon et le muet parla. Le peuple s'écria enthousiasmé « Jamais rien de semblable ne s'est vu dans Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Explication. Donc ici, existence des esprits. Voyez, donc quand un prêtre vous dit que les esprits n'existent pas, que les anges n'existent pas, que les démons n'existent pas, ben, il faut qu'il change de métier. Mais comme c'est pas un métier, un état, ben il va changer de vie, hein, le pauvre. Hein. Il croit plus en toute une partie de ce qu'il doit enseigner. Voyez. Donc bon, l'annonciation, tout ça, tout est faux. Hein. Donc je sais pas ce qu'il va devenir, hein, plombier. Et donc ici, la rapidité de l'exorcisme impressionne. Voyez. Et donc rien ne s'est vu dans Israël. Et les pharisiens, qui sont des juifs observants, ils sont vexés parce que le Christ ne pratique pas les ablutions excessives des pharisiens. Donc ils veulent le coincer d'une manière ou d'une autre. Oui. Alors vous allez me dire, c'était les traditionnalistes de l'époque. Et si actuellement le Christ revenait, eh bien c'est peut-être les traditionnalistes, ceux qui vont à la messe Saint-Pie-Saint, qui seraient les premiers à exclure le Christ. Bah, c'est réécrire l'histoire, c'est particulièrement anachronique au bout de 2000 ans. Voyez. Et notre Seigneur ici n'est pas venu, ne vient pas pour nous faire entrer dans tel ou tel détail. Actuellement, on n'est pas au détail. On n'est pas à savoir si on doit se laver les mains, si on doit pas manger de porc ou des choses comme ça. Donc le problème ne se pose plus. Voyez. Ici, c'est en effet de la jalousie. Le problème peut se poser, la jalousie. Par exemple, moi, je suis particulièrement jaloux du vicaire de Saint-Nicolas-des-Champs qui lit dans les âmes et proclame des miracles. Donc, amer et, comment dire, et énervé et jaloux, je dis, mais ça c'est du pipeau, c'est pas vrai, c'est au nom de Belzébuth qu'il raconte tout ça comme un télévangéliste au micro. Hein? Voilà. Mais voilà, je me dis aussi qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de prodiges. Et en tant que canoniste, juriste de la Sainte Église, donc scribe et docteur de la loi, j'aimerais que ça soit reconnu par un décret épiscopal. C'est très formaliste, c'est très bête, je sais. Mais ça m'énerve. Voyez, mais il y a peut-être en moi, puisque j'ai le désir de voir des miracles ou d'en faire peut-être, de devenir un saint à miracle, adulé, que je puisse traverser la foule comme fend la bise, n'est-ce pas, et que les gens soient là. Vous voyez, Saint-Marc. Mais voilà, c'est un grand mélange actuellement, une grande confusion. Nous devons être prudents, simplement. C'est possible hein, qu'au micro, le prêtre soit là, le Saint-Sacrement descend la nef et un tel est guéri d'un cancer, un tel est guéri d'une haine, un tel, c'est la pitié, vous voyez. C'est particulier. J'avoue que moi, j'ai du mal. Mais les pharisiens, donc, ont du mal, eux, avec le Christ. Sauf que c'est particulièrement public et évident. Vous voyez, moi, ce que je reprocherais aux miracles, comment dire, que font certains prêtres ou certains pasteurs d'âme, c'est qu'ils ne vont pas dans les hôpitaux auprès de personnes mourantes ou dans des services de soins palliatifs. Parce que s'il faisait comme le Christ pour la petite fille de 12 ans, là, je me poserais de graves questions. Mais le critère de l'Église, à partir d'un miracle évident, comme par exemple une personne qui fait 36 kilos et qui est en stade terminal de cancer et qui tout d'un coup se relève et mange et s'en va en s'habillant et en prenant le métro à Charles-Michel. Ce que l'Église va soupçonner, c'est est-ce de Dieu, est-ce du diable? Et donc on va observer la vie de celui qui a prié, qui a obtenu ce miracle, la vie de la personne miraculée. On va être soupçonneux, c'est vrai. Et je l'avoue, hein, je le reconnais, l'Église catholique est très soupçonneuse en matière de miracles. Et elle vérifie tout. Elle attend très souvent la mort de la personne qui a vu, des voyants. Ils attendent encore même après pour examiner tous les effets. Si Medjugorje, par exemple, n'est pas reconnu actuellement, c'est parce que les apparitions ont toujours cours et qu'on n'a pas fait le bilan de la vie des voyants. La grande reconnaissance de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam de 1945 à 1959, c'est en 2004. En 1974, il y avait eu un jugement négatif. Ça ne semble pas surnaturel. Mais la voyante qui a fini très âgée, qui s'appelait Idea, néerlandaise, est morte dans les années 90. Donc elle n'a plus de vision depuis 59. Et c'est en 2002-2004 qu'il y a eu reconnaissance. Et vous voyez, on a attendu qu'elle meure, on a attendu. Et puis elle a eu une vie très belle, très simple. Rien d'étonnant, de choquant, de contraire à la vertu. Et l'Église attend ça, c'est sûr. Troisième partie, page 129, deuxième année du ministère public de notre Seigneur. Donc vous voyez, dans la première année, il ne veut pas trop non plus choquer en disant je suis le Messie, je suis le Messie, mais petit à petit. La fête des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Dans cette ville se trouvait la piscine probatique, c'est-à-dire la piscine des brebis, appelée en hébreu Bethsaida. Elle était entourée de cinq portiques, sous lesquels gisait une foule pressée d'infirmes, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, attendant tous le mouvement de l'eau. À certains moments, en effet, l'ange du Seigneur descendait dans la piscine et l'eau s'agitait. Puisqu'on attribue à saint Raphaël la guérison du père de Tobie Senior, dans la Sainte Écriture, on pense que c'était l'archange Raphaël. Celui qui le premier y entrait, après le mouvement de l'eau, était guéri de son infirmité, quelle qu'elle fût. Donc ça veut dire qu'il y avait un lieu miraculeux en Israël, à Jérusalem, où il y avait eu un bassin où l'eau frémissait de manière étonnante et sans cause, et on estimait que c'était un ange qui le faisait. Et on en avait la preuve parce que tous ceux qui entraient dans l'eau juste après le passage de l'ange était guéri de toute infirmité qu'il pouvait avoir. Donc ça veut dire que du temps de notre Seigneur, il y avait quand même ces miracles-là. Or, il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. L'ayant aperçu, se gisant sur son lit et sachant qu'il souffrait depuis si longtemps, Jésus lui fit une blague. Jésus lui demanda: veux-tu être guéri? Vous voyez, si moi je dis ça à un paralysé dans la rue, je vais me recevoir une claque, hein, je suppose. Mais eux, vous voyez, ils sont pleins de surnaturel. Ça imprègne leur vie. Seigneur, lui répondit le malade, quand l'eau s'agite, je n'ai point d'homme qui me jette dans la piscine. Tandis que j'y vais, un autre y descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. À l'instant, cet homme fut guéri, Il prit son lit et se mit à marcher. Mais comme c'était un jour de sabbat, les Juifs lui dirent, c'est le sabbat, il ne t'est point permis d'emporter ton lit. Je ne sais plus combien il y a de pas qu'on peut faire. Imaginez que nous, le dimanche, on vous dise pas plus de 1000 pas, pour que vous soyez bien au repos, tranquille. Pas de maison de campagne, vous coupez pas l'herbe, vous taillez pas les arbres, voilà. Vous transportez rien, vous vous reposez pour prier. Parce qu'on peut toujours se moquer des Juifs, ou de ceux qui observent très scrupuleusement le sabbat, le jour du Seigneur. Mais c'est pour se recueillir. Le but, c'était pour se recueillir, et c'est pour se recueillir. Vous avez des Juifs pieux qui vivent leur sabbat de manière peut-être assez pharisaïque. Ils ne vont pas allumer la lumière. Pourquoi ? Parce que c'est comme s'ils allumaient un feu. Et donc, il faut rassembler le bois et mettre le feu. Donc, appuyer sur un bouton électrique, c'est comme faire un feu. Demander à un scout combien de temps il met pour faire un feu, et c'est un vrai travail. Mais alors que les rabbins aient assimilé le fait d'allumer la lumière avec le fait de faire un feu, c'est vraiment pharisaïque, hein, entre nous. Hein. Bon. Et là, il n'est pas permis de déménager. Vous voyez. Alors, combien de personnes ont déménagé un dimanche ? Bon. Il répondit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, emporte ton lit et marche. Ça, c'est les dialogues humoristiques de l'Évangile. Vous ne devriez pas passer à côté de temps en temps quand vous avez les idées noires, parce que c'est très drôle. Lui, il dit, mais enfin quand même, ça fait 38 ans que j'étais paralysé. Celui qui m'a guéri, il a quand même une certaine autorité sur moi. Non ? C'est...